Chapitre 54. Au temps où Clémence habitait le faubourg Saint-Honoré, elle avait souvent remarqué un appartement meublé qui occupait le premier étage d'une maison située dans le rond-point des Champs-Élysées, et alors elle s'était dit que si jamais des jours plus fortunés se levaient pour elle, elle louerait cet appartement. Des fenêtres, on voyait défiler devant soi le tout Paris qui va chaque jour au bois. Avec cela, une apparence confortable et fashionable qui plus d'une fois l'avait fait rêver. Mais comment réaliser ce désir alors qu'on pouvait à grand-peine se loger dans une misérable maison garnie du faubourg? Revenant de Rudemont à Paris, elle pensa à cet appartement et, en descendant de chemin de fer, elle se fit conduire aux Champs-Élysées. La chance voulut qu'une famille américaine qui l'habitait l'eût quittée depuis quelques jours. Elle l'arrêta et, après avoir été choisir dans un bureau de placement une cuisinière et une femme de chambre, elle s'y installa. Enfin, elle était chez elle et elle pouvait être elle. Le soir, après son dîner, elle envoya chercher une voiture et se fit conduire au bois. La journée avait été brûlante, la soirée était douce et fraîche. Les équipages étaient nombreux autour du lac et, dans les allées écartées, on rencontrait des promeneurs qui marchaient tendrement serrés l'un contre l'autre. Les imbéciles qui prenaient plaisir à être deux. Elle, qui était seule dans sa voiture, n'avait jamais été si heureuse. Vraiment, il faisait bon vivre. Ce fut avec béatitude qu'elle s'endormit. Mais dans la nuit, elle se réveilla, croyant entendre la sonnette de sa chambre de Rudemont, qui, tant de fois, l'avait fait sauter à bas du lit. Elle écouta, puis, la réflexion lui revenant, elle haussa les épaules. Qui pouvait la réveiller maintenant? Elle était libre. Le lendemain matin, ayant pris la copie du testament du marquis, elle s'en alla doucement, à pied, par les Champs-Élysées et les Tuileries, jusqu'à la rue Sainte-Anne, pour consulter Caffier. L'homme d'affaires était à son cabinet. « Je vous ai demandé, il y a quelque temps, un avis, » lui dit Clémence. « Quel avis ?» répondit l'homme d'affaires d'un air étonné, car il semblait toujours avoir égaré la clé de son tombeau des secrets. « Un avis relatif à un testament qu'une vieille dame voulait faire au profit d'un mien parent. Eh bien, le hasard a voulu que j'aie à m'en servir pour moi-même. Est-ce bizarre ?»« Si vous voulez, je trouverai cela prodigieux. » Enfin, un testament m'a été fait à peu près dans les termes dont nous parlions et je voudrais vous demander ce qu'il vaut. Excellent, dit l'homme d'affaires après avoir lu deux fois la copie. Excellent dans la forme, mais ce n'est pas à dire qu'il ne sera pas attaqué. Oh, cela peu importe, je n'ai pas peur d'un procès quand je dois le gagner. Très bien, dit Caffier qui lui non plus n'avait pas peur des procès. Si nous sommes attaqués, nous nous défendrons. Seulement, vous savez que nous aurons besoin de votre mari pour rester en jugement d'abord et puis ensuite pour obtenir son autorisation à accepter le testament. Mais le capitaine est en prison et je croyais que les gens emprisonnés étaient privés de leurs droits. Malheureusement, il n'a été condamné qu'à 3 années d'emprisonnement et il faut que vous sachiez que l'emprisonnement est une peine correctionnelle. Or, il n'y a que les peines afflictives ou infamantes qui soient une cause de séparation de corps ou qui permettent aux femmes, même séparées de biens, de recourir directement au juge. Ah, si notre homme avait seulement attrapé les travaux forcés à temps ou la réclusion! Mais nous n'avons pas cette bonne chance et il faut nous adresser à lui. Le gaillard est un homme à vous vendre cher sa signature. Voulez-vous vous charger de cette négociation? Il n'est pas nécessaire qu'il connaisse le testament. Ce sera bien difficile à éviter, mais enfin j'essaierai. Demain, j'aurai l'honneur de vous faire connaître le résultat de ma visite. Mais le lendemain, Caffier se présenta chez Clémence avec une mine allongée. On avait fait remise au capitaine Beaujonnier du reste de sa peine et depuis 8 jours, il était sorti de prison. « Voilà une mauvaise carte dans notre jeu. Il faut que nous le trouvions et il faudrait que lui ne vous trouvât pas. » Les espérances de l'homme d'affaires ne se réalisèrent pas et ce fut précisément le contraire de ce qu'il voulait qui arriva. Un matin que Clémence dormait encore, car elle usait maintenant du droit de rester au lit, sa femme de chambre vint la réveiller pour la prévenir qu'un homme, une espèce de monsieur, voulait malgré tout la voir et qu'il refusait de donner son nom. Clémence n'insista pas pour obtenir ce nom et tout de suite, elle eut le pressentiment qu'elle allait voir son mari. « Faites entrer ce monsieur dans le salon, dit-elle, et priez-le d'attendre une minute. Je me lève tout de suite. » « Dans le salon ? » s'écria la femme de chambre. « Mais, madame, il va l'infecter. Ils sont toutes les liqueurs fortes réunies dans un seul mélange, l'absinthe, le rhum, le cognac. Faites ce que je vous dis. » Clémence passa rapidement une robe de chambre et, écartant doucement la portière du salon, elle regarda si ce visiteur matinal était celui qu'elle craignait. C'était bien le capitaine, mais si changé, si vieilli, si dépenaillé, qu'elle eût pu passer dans la rue auprès de lui sans le reconnaître. Ses cheveux ras étaient presque blancs, sa barbe, longue de 10 ou 12 jours, était grise aussi. Ses joues creuses donnaient une longueur étrange à son nez, dont la courbure ressemblait à celle du bec d'un oiseau de proie. Pour vêtements, un paletot d'une couleur indéfinissable et qui n'avait plus de boutons. Au cou, un mouchoir bleu en cotonnade. Des souliers éculés et rapiécés, couverts d'une couche de poussière qui n'avait pas été essuyée depuis plusieurs jours. D'une main, il tenait un chapeau qui avait été gris, mais qui maintenant était fauve. De l'autre, une canne en bois d'épine. La femme de chambre n'avait point exagéré, une forte odeur d'alcool emplissait le salon. Instinctivement, Clémence recula de 2 pas. Mais il fallait faire face à la difficulté et, de ce côté, recommencer la lutte. Elle se regarda dans la glace, puis, quand elle fut parvenue à amener un sourire sur son visage crispé, elle entra dans le salon. Au bruit, le capitaine se retourna. « C'est ma petite chatte !» s'écria-t-il. Puis, ouvrant les 2 bras, en brandissant sa canne et son chapeau, il se mit à déclamer « Oui, puisque je retrouve une femme fidèle, ma fortune va prendre une face nouvelle. » Alors, riant aux éclats, « Et franchement, elle en a besoin, n'est-ce pas? Heureusement que tu n'as pas fait comme ton vieux cap et que tu as su tirer les marrons du feu. Pars à 2, mon petit raton. Si nous sommes séparés de biens, nous ne sommes pas séparés de corps. Quel malheur pour moi si je n'avais plus le droit d'être le mari d'une jolie petite bichette comme toi, car tu as embelli. Ma parole d'honneur, tu es plus ravissante que jamais. Quant à la séparation de biens, tu as eu un fameux nez de la faire prononcer. Ça te permettra de ne pas payer les dettes de ton vaurien de mari. Car, te sachant riche, mes créanciers ne manqueront pas de te tomber dessus. Séparés de biens, mes seigneurs. Et allez donc !» Il coupa l'air de sa canne par un geste qui autrefois lui était familier. « Et tu ne m'offres pas un siège ? » continua-t-il. « J'arrive de loin cependant, ainsi que le prouve le désordre de cette toilette. De notre château de Rudemont, ni plus ni moins. En sortant de la maison de santé où l'on a soigné, mais sans la guérir, hélas, mon infimité chronique, j'ai voulu embrasser ma petite femme. Est-ce gentil ? Tu connais mes principes. Je ne suis pas fier avec la canaille. J'ai fait causer le conducteur de l'omnibus et j'ai appris que l'Hercule en beurre était mort, laissant 300 ou 400 000 francs de rente à ma petite chatte pour être employée par elle en bonnes œuvres. La meilleure pour une femme, c'est d'aider son mari. Fais-moi donc le plaisir d'envoyer tout de suite chercher un chemisier, un bottier, un tailleur, un bonnetier et un coiffeur. Quand j'aurai échangé ces vêtements fatigués contre d'autres, nous causerons et je te dirai comment je suis parvenue à te trouver, car tu as eu l'indélicatesse de ne pas laisser ton adresse à ton notaire, ce qui, pour une femme millionnaire, manque de chic. Plus de mœurs de la bohème, je te prie. Soyons régence, sacre bleu, puisque nos moyens nous le permettent. Fais-moi servir quelque chose, je sèche de soif. » Ce qui résulta de la conversation du capitaine Beaujonnier fut un rapprochement entre les 2 époux. Que voulait-il, ce malheureux mari, que l'injustice du sort avait séparé de sa petite chatte chérie ? Un rapprochement, voilà tout. Il voulait vivre près de sa femme et ne plus la quitter. Trop longtemps, il avait été éloigné d'elle. Que de journées tristes pour lui, que d'heures perdues pour sa tendresse. La vie s'écoule et l'on est toujours surpris d'arriver au bout sans avoir le temps d'être heureux. Il ne voulait plus de cela. D'ailleurs, sa place était auprès de sa femme pour la défendre si la calomnie osait s'attaquer à elle. Sa place aussi était près d'elle pour l'autoriser à plaider si l'on soulevait un procès et si on respectait les volontés du marquis pour l'autoriser à accepter cette succession. Et elle avait cru qu'elle était libre. Quel réveil et quelle chute! Elle était aux mains de cet homme. Si autrefois elle avait pu l'aimer, maintenant il lui faisait horreur. Et il allait s'attacher à elle, ne pas plus la quitter que son ombre. Le jour, la nuit, elle était sa femme. Tant d'efforts, tant de dégoût pour en arriver à voir cette fortune gaspillée par ses mains que l'ivrognerie rendait tremblante. Et il fallait qu'elle subît sa loi, il fallait qu'elle achetât son concours. Que n'avait-il été puni plus sévèrement? Elle commença par payer tout ce qu'il voulut bien commander et par lui donner tout l'argent qu'il exigea. Mais un beau jour, elle lui déclara qu'il fallait s'arrêter. Ses économies l'étaient épuisées et elle ne pouvait plus lui donner un louis avant la fin du procès que Louis Mérot venait d'intenter. Le capitaine pria, se fâcha, expliqua qu'il devait payer ses paris du betting sous peine de perdre toutes les opérations qu'il avait engagées dans l'Omnium, opérations qui lui rapporteraient sûrement plus de 100 000 francs. Elle fut inflexible. « Si tu veux que je te batte, dit-il en serrant les poings, tu n'y arriveras pas. On ne bat pas une femme de 400 000 francs de rente en viager et je te pincerai autrement. » Le lendemain, Clémence, en rentrant d'une promenade, constata que l'armoire dans laquelle elle serrait ses diamants avait été forcée et que la petite caisse en fer qui les contenait avait été enlevée. Comme elle donnait des ordres pour qu'on allât chercher le commissaire de police, le capitaine survint. « Que se passe-t-il » demanda-t-il d'une voix calme. « Mes diamants ont été volés. » « Que personne ne bouge sans mon ordre, dit-il, et que personne ne parle, je me charge de tout. » Puis, faisant signe à Clémence d'entrer dans la chambre, il la suivit et ferma derrière lui la porte à clef. « Ne faisons pas arrêter un innocent, dit-il. Je sais qui a pris les diamants, et si je ne m'abuse, tu le sais aussi bien que moi. Il n'y en avait que pour 30 000 francs. Ah, s'il y en avait eu pour 150 ou 200 000 francs, bon. Mais 30 000, c'était un traquenard que tu me tendais. J'ai profité de l'occasion que tu m'offrais et je te le dis d'autant plus franchement que je n'ai rien à craindre. Sache donc qu'un mari ne vole pas sa femme et qu'on ne me condamnerait pas pour ce fait. Ma défense serait trop facile. Quoique je sois convaincu qu'ils t'ont été donnés en tout bien, tout honneur, qui m'empêcherait de dire que j'en ai employé le prix en bonnes œuvres parce que je ne voulais pas profiter d'un argent mal gagné? Il y a assez longtemps que je suis relégué dans les rôles de traître. Ça m'amuserait de jouer un peu l'homme vertueux, j'aime ce personnage sur la scène. Si tu as voulu, mon petit ange, me faire condamner à une paire afflictive pour te passer de mon concours, c'est mal combiner ta petite machine. Si tu voulais obtenir ta séparation, ça ne valait pas mieux. J'ai palpé 30 000 francs, voilà le résultat, et franchement, je ne peux pas t'en vouloir. Roublarde, la petite chatte. Mais à Melun, il y a de bons garçons qui ne manquent pas non plus de roublardise. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse quand on est enfermé toute la journée? On s'instruit les uns les autres. L'école mutuelle, quoi? Voilà, tu verras que je n'ai pas perdu mon temps.